Bienvenue dans la série de balado-diffusion Pensons patrimoine pour entendre nos spécialistes fournir les dernières mises à jour sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Cette série vous est présentée par BMO Gestion privée.
Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Renaud, je suis vice-présidente et chef de marché à la BMO Gestion privée au Québec. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Richard Bellé, de Louis-Philippe Dessèvres-Bergeron et de Fadia Abou-Nassif. Richard est directeur général et stratège titre à revenu fixe chez BMO Gestion privée. Louis-Philippe est directeur planification fiscale à la BMO Gestion privée également. Et Fadia est directrice planification successorale aussi à la BMO Gestion privée. Nous allons discuter d'un certain nombre de points de vue sur l'immobilier canadien. En effet, en tant que Canadien, l'accession à la propriété est importante pour nous, car une maison nous procure sécurité, confort et ceci nous permet d'élever notre famille, de grandir ensemble en tant que famille. Avoir une maison, c'est aussi une façon de conserver et faire croître votre patrimoine accumulé, surtout à mesure que vous remboursez votre prêt hypothécaire et alors que le prix des maisons a historiquement augmenté régulièrement au fil du temps. Mais je pense que l'on peut dire que ce paradigme a récemment pris un tournant dû au ralentissement de l'économie. Richard, pouvez-vous nous donner un peu de contexte sur ce qui s'est passé récemment dans l'économie canadienne en général?
Oui, certainement. Disons que si on revient en arrière, après la levée des restrictions qu'on a vues suivant la COVID, la réouverture de l'économie, on avait une croissance économique au Canada qui était très forte, surtout plus vers la fin de 2021 et au cours de la première moitié de 2022. Mais depuis ou plus récemment, on a vu davantage de signes d'un ralentissement prononcé de l'économie. Et les causes principales sont la forte hausse de l'inflation qui affecte les familles, les finances des familles canadiennes. Mais aussi, on doit inclure la hausse des taux d'intérêt qui a suivi. Et on peut aussi ajouter le ralentissement en général de l'économie mondiale qui, jusqu'à un certain point, affecte les familles canadiennes. On peut juste penser actuellement au fait que l'économie européenne est probablement déjà en récession. Donc, un impact au Canada aussi. Malheureusement, on s'attend que les conditions se détériorent davantage avant de s'améliorer. Nos économistes s'attendent à ce que la croissance économique principalement se ralentisse et même se paralyse d'ici la fin du quatrième trimestre 2022, avec un risque plus élevé d'une contraction ou une croissance négative au début de l'année à venir, avant de reprendre potentiellement la route de la croissance positive. Le plus gros problème ici est l'inflation qui est élevée. La hausse de prix des alimentations, la hausse des prix de l'essence à la pompe, les problèmes toujours persistants des chaînes d'approvisionnement qui était un des plus gros problèmes qu'on a eu durant la COVID, la hausse des loyers et même la hausse des salaires qui ensemble contribuent à cette inflation élevée. Et bien que nous avons vu récemment des signes que cette inflation-là avait probablement atteint un sommet, il n'y a aucune garantie qu'elle va redescendre nécessairement aussi rapidement qu'elle est montée au cours de la prochaine année. Et en conséquence, on a vu la Banque du Canada augmenter ses taux de 350 points de base ou 3,5% depuis le mois de mars dernier, ce qui s'avère être le resserrement de la politique monétaire le plus agressif qu'on a vu de la Banque du Canada depuis les années 1990. Et pour être trop négatif, c'est probablement pas terminé, puisqu'on s'attend encore à des hausses de 50 points de base ou de 0,5% dans les prochains mois, qui élèverait ou amènerait le taux de la Banque du Canada à court terme à 4,25%. Ce taux serait pratiquement le double ou même légèrement plus du double que du dernier taux du dernier resserrement de la politique que nous avons vu dans le passé. Pas nécessairement le meilleur environnement avec l'inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt, les familles canadiennes, parce que ça rend la tâche beaucoup plus difficile pour avoir les moyens d'acheter une maison, d'accéder au marché de l'immobilier, surtout quand on considère aujourd'hui la hausse fulgurante des prix des maisons au cours des deux dernières années.
Merci. On comprend bien que tous ces facteurs-là semblent indiquer une période un peu plus difficile là, à l'avenir. Mais Richard, quelle a été l'incidence de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, bon, on comprend le plus élevé, sur la capacité d'une famille à participer au marché canadien de l'habitation?
Mais certainement, si on regarde au départ l'inflation, même si ça peut paraître que l'inflation a eu un effet, surtout qu'elle a réduit le pouvoir d'achat des familles, je crois que le plus gros problème recensé, ça a vraiment été la hausse des taux hypothécaires. Quand on regarde l'inflation, on peut imaginer que les familles ont été affectées par ces hausses de prix, mais en partie, ces hausses de prix ont été compensées par la hausse des salaires aussi qui ont été observées. En réalité, je pense que le plus gros problème, c'est vraiment le taux hypothécaire. Le taux hypothécaire qui a augmenté relativement rapidement à des niveaux très élevés. Il ne faut pas oublier qu'on vient de terminer une période de bas historique pour les taux d'intérêt au cours des dernières années. Les taux hypothécaires, si on se ramène en début d'année, ont depuis plus que doublé. Et ça représente un défi de taille pour plusieurs Canadiens et Canadiennes et familles qui considèrent l'achat d'une propriété. Non seulement la hausse des taux hypothécaires sont en cause, mais en même temps, pour rajouter aussi ce que je parlais tantôt, de l'appréciation rapide et non durable des prix des maisons et des logements au Canada qui a eu lieu pendant la pandémie. Une hausse historique qui, dans bien des cas, qui a excédé 50 %. Et cela a contribué, comme tu le disais, Caroline, à un problème de taux d'abordabilité où on a vu justement le pire taux d'abordabilité pour le marché immobilier de notre génération. Et on a vu surtout ça dans les provinces de l'Ontario et la Colombie-Britannique en général. Mais le reste du Canada a été une situation qui est un peu moins négative. Dans le tout, j'inclus les Maritimes, une partie du Québec où le taux d'abordabilité n'a pas été autant affecté, mais ça demeure qu'il est beaucoup, beaucoup moins attrayant et intéressant qu'il ne l'a été dans le passé pour les familles canadiennes. Il ne faut pas oublier que dans les grandes villes, si on pense à les grandes villes en Ontario ou en Colombie-Britannique, par exemple, il faut aussi penser l'effet de l'avènement du travail à la maison et ce que ça a eu comme impact sur l'immobilier dans les marchés ruraux où les familles ont quitté les grands centres pour aller en région. Et tout ça a entraîné des hausses de prix fulgurantes et même les régions, justement, aujourd'hui se retrouvent avec des taux d'abordabilité qui se détériorent davantage. Depuis, évidemment, avec ce taux qui s'est détérioré, ce qu'on a observé, c'est une chute des prix des maisons en moyenne qui a été annoncée au cours des derniers mois. On parle de 9 % en moyenne au Canada depuis le sommet atteint en février 2022. Dans certaines régions, ces baisses maintenant atteignent même jusqu'à 20 %. Et ce qui a aidé à voir cette baisse de prix-là aussi, c'est que la demande des maisons est retombée sous la normale, donc appliquant une pression aussi à la baisse. Mais une chose qui soutient quand même les marchés à court terme, c'est le fait que, évidemment, dans un marché plus à risque, plus volatile, certaines familles vont attendre avant de mettre leur maison à vendre. Donc, il y a moins d'offres de maisons immobilières actuellement, dans le marché immobilier actuellement au Canada. Malheureusement, nos économistes s'attendent à encore davantage de baisse des prix. On parle d'une baisse d'entre 10 et 11 % probablement d'ici à l'été 2023. Et ça devrait ramener les prix davantage plus en ligne avec où ils étaient en début 2021. Et je crois que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui ou dans les prochains mois, justement, pour ramener le marché à un niveau plus abordable pour les familles canadiennes, pour ramener les acheteurs, pour stabiliser ce marché-là et reprendre graduellement le chemin de la croissance. Donc, on s'attend à ce que ce marché-là, après une baisse, devrait se calmer, se stabiliser l'été prochain avant justement de reprendre ce chemin positif pour plus tard en 2023.
OK, merci Richard. Ça m'amène à discuter d'un autre point. Plusieurs de nos clients là, possèdent évidemment leur propre maison, mais aussi des propriétés secondaires qu'ils utilisent pour gagner un revenu locatif. Pouvez-vous nous dire, Richard, là, l'incidence de l'évolution de l'économie puis du marché de l'habitation à l'égard de ces propriétés, des propriétés locatives là, que l'on détient?
Mais pour les investisseurs, investisseur dans le marché immobilier, la situation est toujours positive. Bien qu'on a vu les prix être à la baisse depuis février en général dans les marchés immobiliers, le prix des loyers, les coûts de location, eux, ont augmenté à travers le pays. En fait, dans plusieurs régions comme l'Ontario, nous avons vu des hausses de loyers excédant 10 % comparativement à l'année dernière. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, peut-être pas aussi bonne pour les locataires, mais ça reflète une réalité au Canada du faible taux d'inoccupation. Un faible taux qui est supporté par un taux de chômage qui est très bas au pays. Et en plus, les Canadiens et Canadiennes travaillent davantage et les salaires augmentent. Donc, plus de locataires peuvent se permettre l'abordabilité des hausses de loyers. Malgré tout, il faut dire que l'augmentation de loyers, il ne faut pas l'oublier, affecte plus davantage les jeunes familles, les nouveaux diplômés et les immigrants du Canada qui vont probablement avoir un peu plus de difficultés au cours des prochains mois à accéder au marché de l'immobilier. Dans certains cas, si je regarde, certains groupes seront affectés par ces loyers, mais la situation profite actuellement aux familles qui possèdent des biens immobiliers locatifs dans le cadre de leurs placements globaux. Faut pas oublier que, bien que les taux hypothécaires ont augmenté, mais avec la hausse des loyers, on a aussi vu les revenus, les flux de trésorerie des propriétaires de propriétés de location ou locatives, on a vu leur trésorerie augmenter et ces revenus supplémentaires-là leur permettent justement de couvrir la hausse des frais et d'éviter de devoir vendre à l'intérieur d'une situation qui est négative comme on le voit actuellement. Globalement, à long terme, nous croyons que le marché immobilier demeurera un bon secteur d'investissement, mais en particulier, il deviendra un très bon secteur d'investissement lorsque les prix des maisons se restabiliseront plus tard en 2023, que le marché de la location et le marché en général immobilier se stabilisera et reprendra une croissance positive. Et ça, comme je le disais tantôt, c'est probablement au moment où on retrouvera un certain équilibre dans les prix avec un meilleur taux d'abordabilité.
Donc, ce que je comprends, là, c'est que les gens qui sont actuellement locataires vont faire face à une hausse de l'inflation pour leurs achats courants, mais aussi à une hausse constante des coûts de location. Ça m'amène à demander à Fabia, qu'est-ce que les parents et les grands-parents peuvent faire alors pour aider les jeunes adultes dans leur famille? Je pense à leurs enfants adultes qui sont actuellement locataires ou qui sont prêts à quitter la maison familiale.
Eh bien, Caroline, la question est bien intéressante. Dans le contexte actuel qu'on peut qualifier de difficile, les parents et les grands-parents veulent quand même pouvoir aider leurs enfants à accéder au marché canadien de l'habitation. En fait, les familles peuvent apporter leur aide en partageant leurs ressources et en faisant des dons aux membres de la famille plus jeunes pour les aider à partir du bon pied. Il y a plusieurs façons d'aider la génération plus jeune. Par exemple, il pourrait être possible de faire un chèque ou virer des espèces directement, ou encore de transférer des titres dans le compte de placement du membre de la famille plus jeune. On peut également acheter des biens immobiliers pour lui. Aussi, il est possible d'établir une fiducie avec des actifs au profit du membre de la famille plus jeune. Et finalement, on peut préférer attendre et transmettre les actifs à ce membre ou à ses membres de la famille plus jeune au moyen d'un testament, c'est-à-dire suivant le décès. Il y a donc plusieurs façons par lesquelles un parent ou un grand-parent peut aider son enfant ou son petit-enfant.
OK, merci. Oui, je comprends. Il y a quand même plusieurs options. Selon vous, Fabien, quel est l'élément, excusez-moi, le plus important à ce moment-là à considérer?
Tout don doit tenir compte d'un plan financier global. Pourquoi? Il faut s'assurer que le parent ou le grand-parent peut se permettre de le faire et que le fait de faire le don ne causera pas de difficultés financières futures. Il est donc préférable de procéder au moyen du plan financier. C'est parce qu'une fois que le don est fait, c'est fait pour toujours. Il est donc vraiment probable que les fonds ne soient plus disponibles ou accessibles aux parents ou aux grands-parents à l'avenir. Et c'est là que nous, les planificateurs, on peut bien aider.
Vous dites donc, si je résume, que les parents et les grands-parents devraient s'assurer avant tout qu'ils ont les moyens d'aider leurs enfants adultes afin qu'ils ne se créent pas d'autres ou des difficultés financières futures. C'est un très bon conseil, Fabien. Oui, Philippe, je vais me tourner vers vous. Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a fait de l'abordabilité du logement une priorité. Pouvez-vous nous dire quelles occasions s'offrent aux familles canadiennes?
Oui, Caroline, il y a vraiment trois volets là, dans lesquels qu'on peut explorer qui ont été établis dans le dernier budget fédéral. Le premier volet, dans le fond, c'est un nouveau compte d'épargne pour l'achat d'une première propriété. Le deuxième volet, il y a une nouvelle règle qui va être mise en place pour limiter ou pénaliser les achats-reventes rapides de propriétés. Et le troisième, il y a un groupe de mesures sous-jacentes pour supporter l'abordabilité du logement en tant que tel. Donc, si on commence par le premier volet, et c'est probablement la mesure la plus intéressante pour les familles canadiennes, c'est le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Ce nouveau compte-là sera accessible à un certain moment de 2023, donc on est en attente de la date finale ou la première date où ça va être disponible. Et c'est un compte qui va utiliser le meilleur du REER et du CELI. Et par ça, je veux dire une déduction fiscale à l'entrée pour les cotisations versées dans ce nouveau compte-là et des retraits à l'abri de l'impôt lorsque ces fonds sont retirés. Et ils doivent être retirés expressément pour l'achat d'une maison et pour une première maison admissible. Donc, la croissance des investissements au sein de ce compte-là va se faire à l'abri de l'impôt. Les cotisations en tant que telles en frais de montant ont été fixées à l'heure actuelle à 8 000 $ par année jusqu'à concurrence de 40 000 $ à vie. Et il est important de considérer que, dans le fond, le titulaire du compte doit être vraiment acheteur d'une première maison parce que c'est la finalité de cet outil-là en tant que tel. Donc, on peut voir que ça convient bien aux familles qui vont vouloir contribuer pour aider certains membres de la famille plus jeunes à avoir des moyens financiers suffisants pour acheter une première maison. Je dirais que le seul inconvénient, peut-être à considérer, vraiment, c'est que ce nouveau compte-là, il sera pas, peut pas être combiné avec le régime d'accès à la propriété au moyen d'un REER, là. Donc, ça va être un choix entre les deux. Donc, ça, c'est vraiment pour le premier volet. Le deuxième volet, c'est la règle. Dans le fond, il y a une nouvelle règle qui va être mise en place qui vise à limiter et à pénaliser la revente précipitée, donc à court terme, des propriétés résidentielles. Ça va s'appliquer dans le cadre de revente de biens immobiliers détenus pour moins de 12 mois. Projet de loi qui a été déposé à ce sujet-là vise à traiter tout bénéfice qui va être généré va être traité comme étant un revenu pleinement imposable, comme du revenu d'intérêt, du revenu d'emploi, du revenu de locatif, plutôt que d'être du gain en capital, qui est imposé seulement à 50 %. Et puis, comme c'est ça serait considéré comme étant du revenu pleinement imposable, ça veut aussi dire que ça donne pas droit, ce revenu-là ne donnera pas droit à l'exemption pour résidence principale. Donc, on part d'une situation où est-ce que parce que les gens sont habitués que le gain ou le profit lors de la revente d'une résidence principale est complètement exempté de l'impôt. Et si c'est une situation de revente rapide en moins de 12 mois, donc là, on parle de revenus pleinement imposables et puis qu'il ne bénéficiera pas de cette exemption-là. Donc, ça change clairement l'équation financière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certaines exceptions donc à cette nouvelle règle-là proposée. Qui vise vraiment là, des circonstances hors du contrôle ou dans le fond du contribuable ou des événements qui sont vraiment des événements de vie. Là. Donc, on peut penser, par exemple, dans les cas de décès, les cas de naissance d'un enfant, un nouvel emploi ou un divorce, ben, ces cas-là seraient considérés comme des exceptions à cette nouvelle règle-là proposée. Et finalement, pour ce qui est du troisième volet, donc dans le fond, en frais d'initiatives complémentaires, il y a une série de nouveaux crédits d'impôt fédéraux, des augmentations des crédits d'impôt pour les acheteurs ou les propriétaires de maisons. On regarde aussi des interdictions temporaires d'acheter des biens immobiliers au Canada. Et cette mesure-là vise là, les non-résidents canadiens. Donc, c'est une mesure qui est proposée. Il y a aussi des changements qui vont être apportés au programme incitatif à l'achat d'une première propriété. Donc, si on combine tous ces trois volets-là, on se retrouve avec plusieurs mesures qui visent toutes, chacune par leur propre angle, leur propre méthode à supporter l'abordabilité des logements pour les familles canadiennes.
OK, merci. Alors, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, plus communément appelé le CELI-APP, ça semble être une occasion très intéressante là, pour les parents et les grands-parents d'aider leurs enfants adultes à acheter leur première maison. Puis je comprends qu'on n'a pas encore tous les éléments explicatifs concernant cette mesure-là, mais qu'on en saura un petit peu plus là, à l'approche de 2023. Lorsqu'il s'agit de faire des dons importants qui peuvent aider les jeunes membres de la famille à se lancer sur le marché immobilier, il faut tenir compte qu'il y a des incidences fiscales et juridiques là, pour toutes les personnes concernées. Louis-Philippe, au niveau des incidences fiscales, là, lorsqu'on est en présence de dons, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quant aux incidences fiscales?
Oui, ben c'est sûr que les incidences fiscales lors de dons, donc c'est vraiment un facteur important pour n'importe quelle famille. Et je dirais encore plus important lorsque l'objectif de ce don-là, c'est d'aider les plus jeunes membres de la famille à entrer sur le marché immobilier. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est lorsque, par exemple, un parent fait un don de bien, que ce soit une petite copropriété comme un condominium ou une maison, ça crée une disposition réputée à la valeur marchande pour le donateur ou la donatrice, et que toute l'appréciation qui s'est créée à travers le temps sur cette propriété-là se trouve à être réalisée et imposée à ce moment-là. En général, cette appréciation-là est imposée comme gain en capital, donc ce qui veut dire que 50% dans le fond de la plus-value est ajoutée au revenu régulier du donateur. Sur sa déclaration de revenus et que on applique le taux marginal, dans le fond, sur ce montant-là. Donc, et que le taux d'imposition sur la plus-value pourra atteindre 27%, jusqu'à 27%, là, en fonction des autres revenus imposables du donateur et sa province de résidence. Donc, c'est sûr que chaque province ayant ses propres taux d'imposition, là, ça peut fluctuer de province en province. Le don d'argent, donc on vient de parler dans le fond du don d'immeuble, le don d'argent en dollars canadiens n'entraîne pas de gain en capital ni d'impôt. Mais faut comprendre que si on doit vendre, donc si le donateur de cet argent-là doit vendre, par exemple, des titres cotés en bourse ou doit vendre quelque chose là, pour générer l'argent qui va être donné, bien, cette vente-là peut générer un impact fiscal, donc un gain en capital imposable, donc qui doit être, dans le fond, compris dans tout le calcul mathématique là, des impacts fiscaux à prévoir là, suivant la donation. Dans le cas des dons de biens immobiliers, donc c'est important de s'assurer de planifier pour l'exemption pour résidence principale. Et puis, si on entend donner un bien locatif, par exemple une propriété locative, faut considérer aussi que ce ne sera pas juste du gain capital, probablement qui sera réalisé. Hein, si cet immeuble-là a été amorti dans le temps, il va y avoir la récupération d'amortissement qui va s'appliquer. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que tout l'amortissement réclamé par le passé va être réintroduit dans la déclaration de revenus pour le donateur là, du bien immobilier. Donc, ça crée vraiment une inclusion au revenu qui peut être majeure là, pour l'année de la donation. Pour le récipiendaire ou la récipiendaire de ce bien-là, ben, ça va avoir l'effet d'augmenter le coût fiscal là, du bien reçu. Donc, pour le membre de la famille qui est plus jeune, qui pourrait recevoir ce bien immobilier-là, ben, ça lui permet d'avoir de partir du bon pied parce qu'il se retrouve avec un plein coup de base à rajouter. Là. Donc, pour lui et pour elle, il va pouvoir continuer à utiliser ce bien locatif-là. Une des choses à considérer, je dirais en plus, de façon attentive, c'est de vraiment, lorsqu'on fait un transfert de propriété en tant que don intégral, c'est vraiment soit qu'on fait un don intégral, donc on donne simplement la propriété, ou qu'on fait payer la valeur marchande, hein, la pleine valeur marchande aux membres de la famille à qui on veut transférer ce bien-là. C'est vraiment un choix entre les deux méthodes. Donc, soit c'est un don et puis il n'y a pas de contrepartie, ou soit que c'est une vente à la pleine valeur marchande. La pire option, dans le fond, c'est d'essayer d'y aller entre les deux, soit faire une vente pour une valeur moindre que la valeur marchande. Parce que ce qui arrive en tant que tel, c'est que le donateur ou la donatrice va être imposé sur la pleine valeur marchande quand même. Hein, donc, c'est où le vendresse va être imposé comme sur la pleine valeur marchande, même si le prix est moindre, qui a été fixé est moindre. Donc là, il peut y avoir un manque à ce niveau-là, au niveau flux de trésorerie. Et puis, pour l'acheteur à faible prix, ben cet acheteur-là se ramasse avec un bien à un coût de base qui est plus faible. Et puis, après ça, lorsque le bien va s'apprécier dans le futur, ben, il va devoir se réimposer à nouveau, dans le fond, sur cette portion-là qui a été escomptée en tant que telle. Donc, comme recommandation, je dirais que c'est probablement à éviter vraiment en tant que tel cette espèce de vente-là à escompte aux membres de la famille. Donc, ça, c'est à proscrire. Donc, c'est vraiment soit une donation, soit une vente à la valeur marchande.
OK, merci, Philippe. Quand même pas mal de choses à prendre en considération. Fadia, de votre côté, là, avec le transfert de propriété qui découle d'un don, il y a aussi des conséquences juridiques là, qui se rattachent à ça. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, certainement, Caroline. La grande préoccupation légale que nombreuses familles doivent prendre en considération lorsqu'elles font un don d'actifs ou de biens à un enfant majeur, adulte, est ce qu'il adviendra de ces actifs au moyen d'un partage subséquent de biens. À titre d'exemple, au Québec, pour les gens mariés, la règle de base, c'est que la résidence familiale fait partie du patrimoine familial. Ce qui fait que peu importe la source de financement du domicile conjugal ou la personne qui l'a financé et dans quelle proportion, les deux époux peuvent avoir un droit à des parts égales dans la valeur de la propriété. Ce qui pourrait faire en sorte que la moitié de la valeur de la maison est attribuée à une personne qui pourrait devenir un jour, peut-être, un ex-gendre ou un ex-bru, ce qui n'est pas nécessairement ce que le parent avait en tête. Il y a certainement des solutions. Et les droits de la famille diffèrent d'une province à une autre. Il est donc primordial de consulter un avocat ou un notaire spécialisé dans le domaine avant de faire le don ou d'acheter une propriété à un enfant majeur. Pour parler de quelques pistes de solutions, ce risque pourrait être géré de plusieurs façons. Notamment, on pourrait traiter de la valeur du domicile conjugal dans un contrat de mariage en établissant la valeur de l'apport avant mariage pour le protéger éventuellement. Et on peut également, pour les conjoints de fait, avoir une convention de vie commune ou une convention de copropriété qui va venir déterminer les parts de chacun des conjoints dans cette propriété. Également, il est possible de contracter un nouveau prêt hypothécaire auprès des parents ou grands-parents pour la valeur de la maison qui a été offerte. Un des avantages d'un prêt hypothécaire, c'est qu'il peut procurer une source de revenus aux parents ou aux grands-parents pour les aider à compenser le risque de vivre plus longtemps que la durée de leurs actifs. Le prêt hypothécaire peut également être radié par l'intermédiaire du testament du donateur au moment de son décès sans incidence fiscale. C'est-à-dire, il peut mettre une indication qui laisse tomber le prêt hypothécaire comme tel. Ça nous amène à un autre élément important. De nombreux parents et grands-parents ont une autre préoccupation. Ils souhaitent s'assurer de traiter leurs enfants de manière équitable et juste en ce qui a trait à la distribution des actifs, tant au cours de leur vie que dans leur succession. Lorsque nous aidons les clients à établir leur plan financier, il s'agit de l'un des facteurs déterminants sur lequel de nombreux clients mettent beaucoup l'accent. C'est très important pour maintenir l'harmonie entre les membres de la famille, entre des frères et sœurs, d'établir cet équilibre-là. Un risque important réside dans le fait que si un enfant a l'impression d'être traité de façon inéquitable sur le plan financier dans un testament, il pourrait contester le testament, ce qui pourrait entraîner des contestations judiciaires et par le fait même des coûts importants et des pertes de temps pour la succession, ce qui retarderait également la distribution des actifs à la génération suivante et également réduire ce qui reste de disponible. Donc, la planification et la communication sont des éléments essentiels.
Merci, Fabia. Richard, je reviens à vous. Malgré les récents changements dans l'économie, nous ne devons pas perdre de vue la planification à long terme. Pouvez-vous nous faire part de vos réflexions sur ce qui se passera à moyen et à long terme sur le plan de l'économie et de l'abordabilité des logements?
Oui, malgré, et sans vouloir répéter ce que j'ai mentionné auparavant, malgré qu'à court terme, la situation risque de se détériorer un peu plus avant de voir de meilleurs jours, de s'améliorer, qu'on a aussi le risque d'une croissance négative en début 2023, le premier et deuxième trimestre. La bonne nouvelle, Caroline, c'est que, comme on l'a vu dans le passé, toute récession est passagère, comme toutes les corrections du marché de l'immobilier. Encore, il faut juste retourner à ce meilleur équilibre des prix et des taux d'intérêt. Du côté du positif, on a vu déjà une légère amélioration du taux d'abordabilité, considérant la baisse récente des prix des maisons, et ce taux devrait continuer à s'améliorer. Et il ne faut pas aussi oublier le fait que la Banque du Canada ne continuera pas d'augmenter ses taux d'intérêt de manière indéfinie. Une fois qu'elle aura observé ou qu'elle estimera avec confiance que le niveau de l'inflation au pays aura une trajectoire à la baisse, on pourra s'attendre à ce que avoir une certaine stabilisation des taux d'intérêt. Et même par la suite, si le niveau d'inflation réduit plus près des objectifs à long terme, on pourra même s'attendre à une baisse de taux dans un futur, probablement une situation en 2024, pour ramener davantage plus les taux dans la fourchette considérée neutre pour la politique monétaire. Caroline, le marché de l'habitation aussi rebondira, probablement plus vers la fin du deuxième trimestre, troisième trimestre, on parle de l'été 2023, et les prix recommenceront de nouveau à augmenter. Et ça, en fonction des facteurs fondamentaux. On parle justement d'une baisse de taux d'intérêt futur après la tempête, mais aussi, il ne faut pas oublier que un des facteurs fondamentaux les plus importants dans le marché immobilier a été l'augmentation de la demande qui provient de nouveaux immigrants au Canada. Et la croissance de la population au Canada a été la plus rapide récemment des pays du G7. Donc, positif pour l'augmentation future des logements au Canada. Donc, bien qu'il y ait un peu de négatif, Caroline, je pense qu'il y a la lumière au bout du tunnel pour l'économie et le marché de l'immobilier.
Merci de nous rassurer un peu à ce niveau-là, Richard. Merci à vous trois, Richard, Louis-Philippe, Fabien. Je vous remercie de nous avoir fait part de vos expériences et de nombreuses réflexions sur l'économie, mais aussi sur les répercussions sur la capacité d'achat d'une maison. Compte tenu de tous les changements là, sur le marché immobilier canadien, il y a tellement de choses à prendre en considération pour aider les plus jeunes membres de la famille à partir du bon pied. J'encourage donc nos auditeurs à communiquer avec leur conseiller en gestion de patrimoine, leur comptable, leur notaire ou avocat pour discuter de ces questions ensemble afin de trouver la meilleure façon d'aider les plus jeunes membres de leur famille. Merci à tous.
Cette série de balado-diffusion vous a été présentée par BMO Gestion Privée. Nous vous invitons à vous joindre à nous à nouveau.